franceinter.fr.
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver. On n'a pas diffusé d'émission la semaine dernière puisqu'on trouvait que diffuser un remède à la mélancolie aurait été inconvenant. Je commence cette émission avec des pensées pour les proches des victimes de la semaine dernière et des pensées pour tous les auditeurs, chacun d'entre nous en fait, une entité formant un tout qui œuvre résolument et avec ses moyens du côté de la vie. L'émission a été préparée par Laure Grand Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Djoubaka. Aujourd'hui à la technique, Éric Morin. Et la gourmandise ce matin a suscité le même engouement fiévreux chez Freud que chez Hitler, Lénine, Clémenceau, Dali ou encore Rachmaninoff. C'est la série de tableaux intitulée « L'île des morts » du peintre suisse Arnold Böcklin, soit 5 versions du même tableau réalisé entre 1880 et 1886. Caron, le passeur d'âme, emmène vers l'île des morts une figure fantomatique déjà vêtue de son linceul. À l'avant de la barque, un cercueil blanc fleuri s'oppose à la noirceur des cyprès implacables. Alors je vous accorde que le thème n'est pas très gai, mais c'est une image d'une beauté inouïe dont l'aura sereine transcende la mélancolie. Elle pourrait être, par sa contemplation, un refuge transitoire offert aux psychés endoloris. Et aujourd'hui, notre apothicaire de l'âme est une libraire vestale, gardienne du feu sacré des esprits rectangulaires de papier. Sa défense ardente de la littérature et de ses habitats sont à l'origine de la création en France de la fête de la librairie indépendante et de la fondation du prix Vepler Fondation La Poste, que son instauratrice décrit comme une virée littéraire pure et non commerciale qui défend l'écriture, les gens qui innovent et qui a été décernée cette année à Pierre Sange pour Achab Sekel chez Vertical et dont la mention spéciale du jury élégamment tournant, a été attribué à Lise Charles pour Comme Ulysse chez POL. Marie-Rose Guarnieri, je vous salue.
Bonjour à vous et à tous.
Alors, Marie-Rose Guarnieri, il y a un petit rituel dans cette émission. Oui. Nous sommes dimanche matin, je voudrais entendre votre humeur de ce matin avec le bruit que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit aux mots. Vous vous désaltérez.
Voilà, je me désaltère pour avoir toujours... en moi comme une fertilité pour accueillir et pour aussi transmettre.
Ben c'est ce qu'on va s'empresser de faire et ça va être vraiment réjouissant. Alors, mais avant de savourer vos antidotes au spleen, il faut vous ausculter. Je vais vous demander évidemment si vous êtes un être touché par la mélancolie.
Oui, mais j'ai une façon particulière de la vivre et de l'exprimer. Je ne suis pas du tout dans l'abattement, mais au contraire, je suis un être mélancolique, mais... combatif, qui combat la mélancolie. Donc ça fait une alliance particulière. C'est-à-dire que je suis, au contraire, j'essaye de vivre au-dessus de ma mélancolie.
Alors quelle est la première réaction quand par exemple un sentiment de tristesse vous accable, quelle est la première réaction? Vous vous tournez tout de suite avec cette pulsion de vie du côté
oui,
de...
J'essaye de tout de suite me rassembler, et ça je pense que c'est depuis la petite enfance, c'est de me rassembler pour essayer de trouver la porte de sortie. Voilà, celle qui va, pas pour fuir, parce que je fais face à ma mélancolie, mais c'est celle pour laquelle on va être vers le mouvement ascendant plutôt que le mouvement de repliement.
Eh bien, ce sera donc une émission tournée vers l'élévation. Chers auditeurs, préparez-vous. Le sommaire, dans quelques instants, Marie-Rose Guarnieri vous emmènera vers le haut en convoquant un affabulateur prénommé Billy, Brigitte Fontaine, Dany et Bertrand Belin, des lettres de l'alphabet à gogo, de la psychanalyse, du riolet, les inspecteurs du petit quinquin de Bruno Dumont, le métier de libraire, Jack London, le peintre Paolo Uccello et la terrasse de l'infini. Toutes ces joliesses vous attendent juste après ce titre de Stacey Kent, Tangerine.
Tangerine. She is all they claim, with her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, Sinita stare and cobble.
Boyero side, and I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Yeah, she has them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to
à la mélancolie sur France Inter et nous sommes en compagnie de Marie-Rose Guarnieri et d'un rêveur mythomane.
Little Jack Lovell by Bill Fisher. No, not a novel by William Fisher. William L. Fisher. William D. L. Fisher. William D. Lashwood Fisher. William Fingal O'Flaherty Wheels Fisher are a critical biography.
1963, Billy le menteur du réalisateur anglais John Schlesinger, d'après le roman éponyme de Keith Waterhouse qu'on retrouve au scénario. Et là, c'est l'extrait où le héros cherche des pseudonymes d'écrivains. Et ça fait partie de la nouvelle vague britannique du début des 60s qui s'appelle le free cinema et qu'on connaît pas si bien que ça en France.
Mais oui, c'est pour ça que je voulais, comme vous m'avez demandé de chercher un film, oh, je me suis dit, il faut que j'aille chercher ce petit bijou de la cinéphilie anglaise. Donc voilà, vraiment, et puis je trouve que c'est beau parce que c'est un film sur les rêveurs, sur les inadaptés et sur les c'est dans, ça se passe dans une petite ville anglaise austère, dans une famille un peu encombrante, ce petit jeune homme, ce petit blondinet, ce petit ricalaoupe, se défend en rêvant.
Il travaille dans des pompes funèbres.
Il travaille dans les pompes funèbres. Il promet, il a deux copines, mais c'est pas celle qu'il aime, avec qui il promet le mariage. Mais celle qu'il aime, c'est Lise, celle qui vit à Londres et celle qui va peut-être l'aider, lui proposer de préférer la vie au rêve, mais est-ce qu'il va y parvenir? Ça, c'est la question. Mmh. Et la beauté de ce film, c'est qu'il est vif, il est inventif, il y a une bizarrerie mélancolique et puis il y a un beau naturalisme. Et ce qui est très émouvant, c'est qu'on montre comment, parfois, les adolescents peuvent préférer le rêve à la réalité. Quand on trouve pas son incarnation, on peut faire le choix du rêve. Et lui, c'est ça son... Alors ce qui est beau, c'est que dans le film, c'est que on voit les rêves. C'est-à-dire que le cinéaste nous le montre à la tête d'une armée quand il se rêve
dans son pays,
général.
Ambrosia.
Voilà, on les voit les rêves, ils sont visualisés. Et c'est rempli de charme. Et c'est aussi sur la fragilité des adolescents qui n'ont pas toujours la possibilité de s'incarner sur socialement tout de suite. Donc c'est aussi le temps qu'il faut pour ouvrir ses ailes et peut-être s'incarner dans le monde réel.
C'est un film assez drôlatique. Comme vous le disiez, je repense à cette scène où il met des amphétamines dans le thé d'une de ses fiancées. Il y a cette chose à la limite du burlesque et puis d'un coup c'est vrai qu'il y a une sorte de mélancolie en filigrane.
Oui.
Et puis on se demande si la fiction n'est pas supérieure à la réalité, comme dans La Nuit américaine de Truffaut.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Marie-Rose Guarnieri ?
C'est vrai que de faire un rapprochement avec Truffaut, c'est beau, parce qu'il a aussi essayé de montrer ce déchirant moment, dans, par exemple dans La Nuit américaine, mais aussi, on va dire, dans Les 400 coups, où voilà, c'est très difficile de... En même temps, on n'est pas bien dans sa famille, mais en même temps, c'est du connu, mais en même temps, on a très peur de l'inconnu, et on a peur de la solitude, qui est celle peut-être la vie d'un adulte. Et il y a les rencontres. Là, ce qui est beau dans ce film, c'est là où c'est une vitamine, c'est qu'il y a le charme des rencontres. Et il y a Lise, qui, elle, est une fille, jeune fille dont il est amoureux et qui lui propose de partir avec elle à Londres.
Mais on ne raconte pas la fin.
Non.
En revanche, Freud, qui disait « quoi que vous fassiez, vous ferez mal », a aussi dit, il nous donne quand même une chance, il a aussi dit « le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte ».
Oui, c'est ça. Il se prépare. On va dire que c'est
un
gâteau.
Vous l'avez fait, ça, Marie-Rose Guarnieri ?
Oui, oui, oui. Et en fait, je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de laisser du temps aux jeunes gens de se trouver et de ne pas les manipuler, de ne pas les contrer dans le moment où ils se cherchent et où ils tentent des tas de choses.
C'est vrai que la patience n'est plus quelque chose à la mode. En tout cas, l'idée d'affranchissement va souvent revenir au cours de notre batifolage, mais aussi celle qui consiste à créer la réalité qui nous convient. Il y a un biais très efficace, c'est le mensonge qu'utilise le héros du film, et puis ça sied parfaitement au titre de la chanteuse qui vous égaye.
L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogo. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogo. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant, délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus aux têtes creuses, mais la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques.
« 2001, Pipo » de Brigitte Fontaine, avec sa drôlerie, son irrévérence, sa poésie.
Sa poésie.
Je suis sûre que vous êtes sensible à son style littéraire aussi.
Ah oui, bah oui. C'est la liberté, c'est la styliste absolue. Et puis, c'est celle qui a enveloppé son être d'exubérance, et puis de hors-champ, mais pour quand même avoir, pour peut-être maquiller une profondeur, une exigence absolue dans ses chansons et dans son vocabulaire. Donc c'est vraiment quelqu'un d'éternellement jeune qui s'est renouvelé sans cesse et qui fait un bien fou parce que elle est absolument pas dans les rails, quoi. Et ça fait beaucoup de bien de la voir apparaître et d'entendre ses chansons. Tout de suite, on passe un autre voltage, on passe sur un autre voltage. Et c'est rare des gens qui vous font quitter comme ça les normes, les rails, les bien-pensances. Elle n'est rien de tout cela. Et ça, j'adore.
C'est vrai, une vraie liberté, et vraiment cultivons cela, n'ayons pas peur d'être des marginaux.
Oui.
Votre
oui.
Deuxième antidote musical devait représenter la France à l'Eurovision en 1974, mais suite à la mort du président Georges Pompidou, le pays en deuil se retire de la compétition.
Comme disait le vieux Sébastien, y a pas de mal à se faire du bien, la vie c'est du cinéma. Qu'on ne regarde qu'une fois. Pourquoi bouder son désir? Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Moi je dis tout simplement, c'est beau la vie à 25 ans. Il y a pas de mal, tu sais, à se faire du bien. La la la, il y a.
Cessez de nous juger comme ça, culpabilité judéo-chrétienne, on ne vous entend pas. Nous sommes en 1974, c'est la vie à 25 ans de Dany. C'est une chanson pleine de légèreté.
Superbe. Et l'année d'après, puisqu'elle avait, la France était en deuil, on a dit bon, elle peut pas, l'Eurovision sera annulée. On dit quand même, cette jeune femme, c'est dommage, on va lui faire revenir, se présenter pour l'Eurovision. Et là, elle se tourne vers Serge Gainsbourg, qui lui écrit Boomerang. Et le jury, quand il voit le texte, les seringues, les flingues, dit non, on refuse cette chanson, vous changez de parolier, ou sinon vous ne venez pas. Elle n'a pas changé de parolier. Et sachez que c'est cette chanson qui est venue la sauver, puisque c'est elle qui l'y a fait remonter sur scène, mais 25 ans après.
Il y a autre chose aussi.
Une belle histoire derrière ces chansons.
Oui, et il y a autre chose qui l'a sauvée aussi à un moment assez compliqué de sa vie. Sa mère est catalane.
Oui.
Elle a une passion pour les fleurs.
Les roses.
Oui. Elle a ouvert le premier magasin au nom de la rose.
Oui.
Et vous, Marie-Rose Guarnieri, vous avez introduit la fête de la librairie indépendante, la Saint-Jordi, en France, qui est une fête d'origine catalane où on offre des roses et des livres.
Oui.
Ce n'est pas anodin.
Exactement. Mais c'est Dany et Rodagile qui m'ont appris qu'existait cette fête.
Le parolier.
Oui, le parolier de Claude François, celui qui a fait Alexandre et Alexandra, entre autres, mais toutes les chansons de Julien Clerc surtout, c'est eux qui un jour, un soir comme ça, parce que bon, ils étaient fêtards, ces deux-là, et ils m'ont dit, ils sont fêtards, elle est toujours là, Dany, et Dieu nous la garde longtemps, voilà, ils m'ont parlé de la Sainte-Jordi, et moi je me suis dit, bon bah je vais appeler, je trouve que c'est une très belle journée, c'est un très beau symbole, un livre, une rose, je vais appeler tous les libraires indépendants de France d'occuper cet espace, et c'est la journée aussi mondiale du livre et du droit des auteurs, donc maintenant, tous les mois d'avril, une fois par an, tous les libraires sont rassemblés, vous offrent des roses et on édite un livre pour le public sur la culture du métier de la librairie, sur le métier de l'édition et tout ça. Voilà.
Ça se passe dans toute la France, aussi Belgique, en Belgique et en Suisse.
Francophone et en Suisse.
Et alors, Marie-Rose Guarnieri, j'insiste lourdement avec des sabots, votre prénom vous a-t-il influencé puisque l'auteur de votre troisième choix musical que nous avons reçu la saison dernière est un poète et dans sa chanson, il est à nouveau question de fleurs.
Il entoure de la maison, hyper nuit, celui bien nommé la bête, le mal grandit celui même. Il entoure de la maison, hyper nuit.
Si vous voulez savoir où il est question de fleurs, il faut aller jusqu'à la fin de la chanson 2010, Hyper Nuit de Bertrand Belin, un texte poétique qui demande une attention des égards encore.
Oui, c'est très écrit.
C'est votre amour de la littérature. Il est écrivain aussi.
C'est un écrivain. Il vient de faire un livre qui s'appelle Requin aux éditions
Pléoël. Formidable.
Il a une couleur, il y a une intériorité dans ses chansons. Il nous emmène, il faut écouter et on est dans une atmosphère rarement créée par les chansons. Il n'y a pas du tout de narration linéaire, c'est des perceptions. C'est ce que pour moi, un écrivain, c'est des perceptions. Et il sait les agencer, c'est merveilleux, ça swing, on décolle avec lui aussi, on quitte le ronron.
Vous ne voulez pas présenter Remède à la mélancolie parce que je suis sous le charme. En tout cas, il sera en tournée là et dès mardi 24 novembre à Creil, en France et en Belgique par la suite. Rentrons maintenant dans l'hypernuit de votre psyché.
Depuis pas loin d'un siècle qu'une baderne autrichienne obsédée s'est mise en tête qu'Œdipe voulait sauter sa mère, la psychanalyse a connu sous nos climats le même engouement que les bains de mer ou le Paris Mutuel Urbain. On a beau savoir pertinemment que la méthode d'investigation psychomerdique élucubrée par le pauvre Sigmund n'est pas plus une science exacte que la méthode du professeur Comédon pour perdre 30 kilos par semaine tout en mangeant du cassoulet, ça ne fait rien, la psychanalyse c'est comme la gauche ou la jupe à mi-cuisse, c'est ce qui se fait maintenant chez les gens de goût.
On entend Pierre Desproges sur la chaîne en 1986 avec ses chroniques de la haine ordinaire. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais presque tous les invités choisissent la psychanalyse comme système de pensée antifile. Alors, ne me dites pas que Dieu est mort quand même,
parce que je ne suis pas au courant. Non. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que je peux essayer de répondre à cette question. Il me semble qu'on est à un moment où il est très très difficile, dans ce flot d'informations, de savoir où nous sommes. Et c'est un lieu très rare, très singulier, qui est très inimitable, dans lequel vous pouvez peut-être avoir la chance d'être en contact avec vous et d'essayer d'entendre où vous êtes et ce que vous avez vraiment envie d'être et ce que vous pensez profondément. Et c'est un lieu de liberté aussi, il n'y en a plus beaucoup, où vous pouvez dire aussi ce qui vous passe par la tête, puisque Freud disait, écoutez, une analyse, c'est vous vous asseyez comme dans un train et vous me racontez ce qui se passe en regardant la fenêtre. Et donc, c'est un lieu où vous pouvez enfin vagabonder, lâcher un peu votre moi de société pour rencontrer votre moi profond. Et puis bon, c'est aussi apprendre à regarder sa mélancolie en face, c'est avoir affaire enfin à sa mélancolie et la nommer et ne plus en avoir peur. Et peut-être cerner les ombres noires dans lesquelles peut-être seul on n'entrerait pas. C'est pour ça qu'il y a avec vous comme un guide, comme une présence qui vous dit « pousse cette porte qui te fait peur, essaye d'entrer et vois peut-être que c'est pas si grave que ça, ce que tu as laissé au fond dans ton enfance, tout au fond de cette chambre ou tout au fond de cette nuit. N'aie moins peur ». Commence à l'apprivoiser. C'est aussi un endroit où on vient s'apprivoiser soit dans ses contradictions et parfois dans ses incohérences, dans ses pulsions aussi. Donc voilà, c'est important d'en parler, de les regarder en face pour pas qu'elles vous submergent et vous échappent.
Alors Marie-Rose Guarnieri, allongez-vous sur ce divan et parlez-nous du riz au lait de votre maman.
Ah voilà. Oh bah écoutez, là vraiment c'est vrai que quand je suis trop agité ou quand j'ai un enjeu important, il me vient d'avoir envie d'aller chercher vite du riz au lait ou de même de me faire du riz au lait comme me faisait ma maman. C'était vraiment le petit dessert. Il y avait beaucoup de choses d'elle-même qui s'y trouvaient. Il y avait une saveur que j'ai jamais, qui est inimitable, et puis un savoir-faire, ni trop collant, ni trop dur, ni trop mou, voilà. Et c'est un maître d'une grande douceur, dans lequel, voilà, vous pouvez être nourri. nourri, c'est important de se nourrir. Ouais, mais nourrir sur tous les plans, affectif et physique.
Comme un refuge à manger. Louis IX en était friand, mais c'était avant qu'on découvre la vanille et le sucre autour de lui. C'était plus austère, mais déjà, ça marchait. Dans un instant, il y aura des livres et des vaches en pagaille. Ça, c'est de la guiche. C'est juste après un titre de la playlist de France Inter, Dominique A, Central Otago.
Elle est venue par la rivière, comme sortie des eaux. Ils ont demandé d'où viens-tu, elle a dit Central Otago. Personne ne savait où c'était, mais tous aimèrent aussitôt ses mots. Elle s'est assise et envoyait ses mains zébrées comme au couteau. Elle m'a dit, veux-tu venir chez moi? Elle a répondu oui. Et tous les hommes les ont suivis jusque chez elle avant d'ouvrir. La femme leur a dit, vous restez dehors. Et aucun n'a bronché. On ne roulait comme des cerceaux, ces deux mots. Central Otago. Central Otago. Elle est sortie au matin, tous les hommes l'attendaient dehors. Et tous ont regardé ses mains, sans plus les ébrure. Et alors, l'un d'eux s'avançant lui a dit, nous ne te demandons que deux mots. Fermant les yeux, elle a souri et a dit,
Central Otago.
À la mélancolie sur France Inter, nous sommes toujours en compagnie de Marie-Rose Guarnieri et du commandant Von der Weyden.
On est au cœur du mal, là, Carpentier.
C'est la bête humaine, mon commandant. Une bête humaine.
J'ai jamais vu une atrocité pareille, moi.
Non plus.
Une femme, âgée de 15-5 ans, blanche, sans tête.
Sans tête ?
Sans tête, en plus.
On est au cœur du mal, la Carpentier. La déclaration récurrente du commandant Von der Weyden à son lieutenant associé dans la série en 4 épisodes diffusée sur Arte l'année dernière, Petit Quinquin de Bruno Dumont. Marie-Rose Guarnieri, vous pouvez remettre cette réplique dans son contexte?
Eh bien, quand il découvre d'une façon un peu grand-guignolesque un cadavre dans le ventre d'une vache. Alors voilà, c'est vraiment un film complètement hors des rails, qui est en même temps un énigme et un hommage quand même aux gens du Nord, mais c'est un Nord particulier. Tout est jamais condescendant, tout est très affectueux. Les personnages sont cabossés, les petits héros ont des becs de lièvre.
Petit Quinquin,
il a un bec de lièvre, ils sont complètement ahuris. Il y a un jeu avec les rythmes, c'est-à-dire que le personnage de l'inspecteur est toujours en décalage quand on lui pose une question, il répond pas tout de suite.
Bernard Prévost, extraordinaire.
Voilà, ouais. Extraordinaire. Il y a un absurde, un burlesque. Et ouais. Tout ça, c'est bon enfant. Et il y a aussi beaucoup de poésie dans ce film. C'est quand il y a de la farce en permanence et il y a beaucoup de poésie. Et en même temps, il y a des beaux paysages comme ça du nord avec les plages. Il y a un hommage à la peinture flamande aussi qu'il adore. Enfin, c'est un film, mais on n'a jamais vu ça. C'est incomparable. C'est un film en même temps plaisant à regarder, drôle et en même temps poignant. C'est jamais vu une fresque humaine comme ça, d'aujourd'hui, aussi savamment orchestrée.
C'est amusant parce qu'en plus on avait reçu Bruno Dumont dans l'émission et comme auteur, lui, il avait choisi Bernanos qui va parfaitement avec l'idée du cœur du mal. Et comme chose à éviter, ça va vous parler, ça, Marie-Rose Guarnieri, la guimauve, c'est-à-dire le risque zéro, comme vous qui aimez décalé, le décadré.
Oui, c'est ça. Le mou, si vous voulez, là c'est très important cette histoire de guimauve parce que en fait on demande beaucoup aux êtres de devenir des guimauves, justement, de prendre la forme qu'on demande qu'ils prennent.
D'être consensuel.
Et je pense que c'est très important, c'est de garder ce que l'on est. Et savoir le porter, parfois, oui, il y a des risques, parce qu'on peut ne pas, plaire à tous. Et je pense que si plus on va devenir guimauve, plus on aura une société violente. Donc je pense qu'il faut que les gens soient un peu plus eux-mêmes, au plus près d'eux-mêmes.
Les guimauves, mangeons-les en tout cas, mais... Alors ceci n'est pas une blague, je vous annonce qu'il va y avoir une saison 2 de Petit Quinquin. Elle est en préparation, vous savez comment ça va s'appeler pour le moment, c'est Coin-Coin et les extraterrestres.
Ah c'est trop drôle ça, voilà. ça c'est bien, vraiment vous allez voir, c'est une merveille de film.
Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer.
La consolation par les petits papiers interprétés par Régine, c'est pour illustrer ce qui vous met en joie, Marie-Rose Guarnieri. Évidemment, votre métier de libraire est la vie au milieu des livres. Vous êtes en contact avec la matière première des remèdes à la mélancolie, finalement.
Oui, c'est vrai. C'est très troublant. Et je ne sais pas si je vais pouvoir même vous l'expliquer parce que c'est assez mystérieux. Dès que j'arrive dans ma librairie, il y a quelque chose pour moi qui se remet en ordre. Il y a une harmonie par les classements, par chercher la place juste. C'est une vraie présence parce qu'un livre, c'est un avoir et un être, c'est un être aussi. Et c'est une présence, c'est des mots, c'est vraiment vivant. Et puis c'est vrai que j'ai été formée par les livres et je suis corrigée aussi dans mes défauts par les livres, car il y a une lenteur qui m'est imposée, il y a des règles de l'art, quoi. Pour pouvoir s'occuper des livres, il faut de l'endurance, il faut de la patience, il faut de l'oreille, il faut des yeux. Et donc c'est toujours tous ces sens-là qu'il faut qu'ils soient toujours mobilisés. Et donc moi, depuis maintenant 30 ans que je fais ce métier, en fait, j'ai été portée et guidée. Ça m'a permis de rentrer dans une vie réelle. Moi qui étais aussi, comme Billy le menteur, une rêveuse, j'ai accepté de professionnaliser une passion et d'être concrète et de pouvoir supporter le réel, mais en étant enchantée par la transcendance qui est celle de l'œuvre d'art.
Et puis en plus, sans le fuir, ce réel, c'est voilà. Ça que vous décrivez depuis tout à l'heure.
Ah oui, là, pas le fuir parce que c'est...
Pas comme Billy le menteur, justement.
Voilà, là, maintenant, je suis face aussi à une économie de la culture qu'il faut que j'arrive à tenir, et j'adore apprendre. Et donc, tous les jours, j'apprends quelque chose. Ça, c'était le grand remède pour se sauver.
Il y a aussi le rapport au lecteur. Vous vous tissez des liens toute la journée. Vous avez dit dans une interview que conseiller un livre demandait de l'empathie. Vous êtes comme une sorte de sommelier, mais avec des remèdes.
Oui. Et puis on ne sait pas tellement. C'est très très bizarre parce que ce n'est pas une chose aussi cohérente que l'on croit. C'est pour ça que les sites qui vendent en ligne vous disent voilà, vous aimez ça et ça et ça, donc vous allez aimer ça ça ça. Mais non, parce que quand vous êtes devant une personne, il y a ce qu'elle vous dit, mais quand vous la regardez, c'est de ce qu'elle vous dit pas. Et parfois, vous trouvez un livre et c'est exactement celui-ci qui vous fallait. Donc, c'est une immersion et c'est une connaissance des livres et un savoir des livres et des êtres qui permet de les mettre en contact. Puis on cherche aussi, c'est un métier où on cherche toujours. On cherche ce qu'on n'a pas, On n'est pas un métier où on est comblé, c'est un métier où on sait qu'on ne saura jamais tout, donc c'est un métier modeste aussi. On est remis à sa place, on ne pourra jamais tout lire, donc on apprend que voilà, on est au milieu de choses qui nous dépassent.
Je voulais aussi, Marie-Rose Guarnieri, partager avec vous et avec les auditeurs deux anecdotes qu'on a découvertes en préparant l'émission. Il y a le grand vizir de Perse, Abdul Qassem Ismail, qui emportait ses 117 000 livres partout, avec lui grâce à 400 chameaux classés par ordre alphabétique. Ah, ça, on a trouvé ça formidable.
Ah, oui.
Et puis, aujourd'hui, au Brésil, il y a une loi qui permet aux détenus de réduire leur peine de prison en lisant un livre. Ils peuvent gagner 4 jours. Bon, la limite, c'est de 12 livres par an, mais bon, en échange, ils écrivent une petite dissertation quand même pour prouver qu'ils
ont bien lu.
Oui.
Qu'il ne faut pas semblant. Ah ouais, ça c'est très bien. Oh, ben, il y a un grand livre aussi sur un prisonnier qui s'appelle Suerte, la chance, de Lucas, chez Terre Humaine Plomb, qui raconte, en prison, comment il s'est changé par la lecture et par les études.
Alors, on parle d'amour des livres et je dois vous signaler qu'il y a une soirée spéciale ce soir sur la chaîne pour les 60 ans du Masque et la Plume. C'est à 20h et je sais que c'est un peu bizarre de le mettre ici, mais on vous passe un petit module à ce sujet. Ça dure 2 minutes. Jérôme Garcin, c'est à vous.
Cette semaine,
sur France Inter,
le Masque et la Plume fête ses 60 ans.
Est-ce que vous croyez qu'on va rester à la radio ?
Oui.
L'occasion de se replonger dans 60 ans de littérature, de théâtre et de cinéma.
Bonjour, spectateurs de l'Auditorium 104, maison de l'ORTF à Paris, et bonsoir, auditeurs de France Inter. Voici aujourd'hui une émission spéciale du Masque et la Plume.
Et je crois, Michel, qu'on peut lever le rideau. Sans donner les trois coups.
21 février 1957, les critiques du Masque et la Plume parlent de littérature.
Martial Mouchy veut dire un mot là-dessus.
Moi, je trouve que l'obscurité n'est pas une notion claire.
Michel de Saint-Pierre. Pour moi,
l'obscurité, c'est quand je ne comprends pas et quand beaucoup d'autres avec moi ne comprennent pas. La clarté, c'est quand je comprends.
J'aimerais que Rob Grillet donne sa définition de l'obscurité de la clarté. Non, Robert Canter.
Il y a 100 ans, personne ne comprenait les fleurs du mal. Toutes les midinettes aujourd'hui lisent les fleurs du mal et comprennent tout. La notion de clarté est une notion historique, comme beaucoup d'autres notions. La vie explique petit à petit certaines œuvres. Tant pis s'il y a des lecteurs qui sont un peu en retard sur leur époque.
Bon là, je veux quand même aller contre Canter, et avec Michel de Saint-Pierre pour une fois, je crois vraiment, Canter, que les milliers ne lisent pas Baudelaire et que très peu...
Elles lisent aussi, et nous lisons aussi.
Le Masque et la Plume fête ses 60 ans.
Comme d'habitude, tu n'as rien compris, c'est d'ailleurs ton habit.
Nous avons rendez-vous avec les auditeurs de Paris Inter.
Rendez-vous pour une émission spéciale ce dimanche sur France Inter à partir de 20h.
Là, il y a un vrai moment,
c'est ça qu'on va pas raconter.
Non, mais je ne raconte rien.
Toutes les infos, les bonus, sur franceinter.fr.
De retour après cette parenthèse farfelue dans Remède à la mélancolie avec vous, Marie-Rose Guarnieri. Votre citation consolatoire s'inscrit parfaitement dans notre causerie puisqu'elle loue ces objets sacrés dont nous parlons, les livres. Elle est de Victor Hugo. Elle est extraite de son ouvrage William Shakespeare, par qui il était fasciné. Ça date de 1864 et je vous laisse nous la lire.
Un livre est quelqu'un. Prenez garde à ces lignes noires sur du papier blanc. Ce sont des forces. Elles se combinent, se composent, se décomposent, entrent l'une dans l'autre, se dévident, se nouent, s'accouplent, travaillent. Telle ligne mord, telle ligne serre et presse, telle ligne entraîne, telle ligne subjugue. Les idées sont un rouage. Vous vous sentez tiré par le livre. Il ne vous lâchera qu'après avoir donné une façon à votre esprit.
C'est magnifique et on doit ce magnifique texte à l'homme qui a importé le mot pieuvre. En français.
Ah oui.
Oui. Voilà, je tenais à partager cette information de haute importance avec vous. Et à 14 ans, Victor Hugo écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Et ça, c'est une déclaration qui aurait pu être faite par le héros de votre sérum littéraire, ouais. Martin Eden, dans le roman éponyme magistral de Jack London, qui a été publié en feuilleton dans une revue américaine au début du XXe siècle, et qu'il a écrit pendant son séjour en Australie, où il était soigné pour diverses maladies tropicales. Comment est-ce qu'on peut décrire ce roman d'apprentissage, d'amour exalté, de passion, de...
C'est un livre...
C'est le cosmos.
C'est un livre sur la fin. Sur la fin d'apprendre. Et c'est sûr aussi... Il y a une force ascensionnelle dans ce livre. C'est sur les apprentissages. C'est comment, par la culture, par la littérature, par les sciences, comment cet homme qui vient marin autodidacte qui sauve un jeune bourgeois du naufrage. Ce marin entre dans une famille qui au début dans un monde qu'il fascine au début et comment il y a un déclic pour lui. Ils sont très accueillants avec lui parce qu'il a sauvé le fils de famille du naufrage. Mais plus il apprend, plus il va savoir. Plus il va se rendre compte qu'ils ont un rapport superficiel, d'abord au savoir, qu'ils semblent dire des choses, mais en fait ils n'ont pas approfondi comme lui. Comme il était autodidacte, il est allé à fond pour tout apprendre de fond en comble. Et dans son désir soudain, quand il commence à émerger, à se construire, et dans son désir soudain de devenir écrivain, il se rend compte que la jeune femme, qui était celle qui semblait l'aimer et l'aider à s'en sortir, quand il lui avoue en fait qu'il souhaite devenir écrivain, elle doute absolument en se disant c'est pas possible qu'un homme venant des raffios puisse devenir un poète et un artiste. Et donc quand il se rend compte de cela, il est complètement désenchanté. Il voit combien ce monde bourgeois est condescendant. Mais c'est un livre bouillant. C'est un livre qui vous entraîne et qui vous pousse à vous dépasser. Et c'est un livre aussi sur la soif de savoir et sur l'amour de la littérature. J'ai lu ce livre parce que j'avais lu un entretien de Marguerite Duras qui disait, quand j'ai fait une cure de désintoxication, j'avais emmené Martin Eden et j'ai été tenue tout le temps par ce Martin Eden. On ne sait pas pourquoi non plus, mais ce livre vous tient de fond en comble, et c'est le livre le plus autobiographique de Jack London. Et Jack London, pourtant, se défendait de que ce soit autobiographique. Il disait, non, lui, c'est un individualiste, il veut s'en sortir tout seul. Moi, je suis socialiste, je crois qu'on s'en sortira par le politique. Et malheureusement, London, alors qu'il ne le savait pas quand il a sorti ce livre, il connaîtra le même destin que son héros.
Est-ce que vous pouvez nous lire un petit extrait ?
Oui. Alors, c'est quand il arrive pour la première fois chez les bourgeois, quand il a sauvé du naufrage le jeune bourgeois. Se rendre dans la salle à manger fut une opération cauchemardesque. Il lui sembla qu'il n'y arriverait jamais. Et il n'y parvint qu'avec des haltes soudaines et des trébuchements, des saccades et des embardées. Mais enfin, il atteignit et se trouva assis à côté d'elle. Le déploiement de couteaux et de fourchettes l'effraya et lui parut hérissé d'embûches. Il les regarde fascinés, si bien que leur miroitement devint le fond sur lequel se mouvait une succession d'images. Il se revit dans l'entrepont d'un schooner. Lui et ses compagnons mangeaient du bœuf salé avec leurs doigts et des couteaux à cran d'arrêt ou puisaient avec des cuillères de fer toutes bosselées une épaisse soupe au poids dans de grossières gamelles. La puanteur du mauvais bœuf emplissait ses narines tandis qu'il entendait, accompagnant le crissement des membrures et le gémissement des cloisons étanches, les bruyants claquements des mâchoires. En regardant ses compagnons, il estimait qu'ils mangeaient comme des cochons. Mais ici, il ferait attention de ne pas faire de bruit et toute sa volonté se tendait vers ce but.
C'est magnifique, il faut le lire absolument. Martin Eden de Jack London, lu avec passion par Marie-Rose Guarnieri. Dans un instant, je vous le dis tout de go, nous ferons leur fête aux festivités de fin d'année. Mais juste avant, je vous propose de gigoter tout votre soul sur ce classique qui reprend l'air de Good Times de Chic. C'est Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.
To the rhythm of the boogity beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S and the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big dogs that definitely ain't the whack.
I got a Lincoln Continental and some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, holiday.
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shaking dare. Air. You're rocking to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter to pop, to pop, to pop. Give it, give it, pop, to pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here. I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere.
Remède à la mélancolie sur France Inter, vous tombez juste au moment du fidèle et tragique contrepoint à la joie de cette émission. Nous sommes en compagnie de Marie-Rose Guarnieri et de ce qui, chaque année, a sombré son âme à coup sûr.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on the one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Alors pour que ce soit moins douloureux, nous avons appelé à la rescousse Frank Sinatra, mais cela reste malgré tout Jingle Bell soit un titre emblématique de la célébration qui vous fiche le bourdon, Noël. Alors Marie-Rose Guarnieri, je vous approuve totalement, oui. Mais ma légendaire impartialité de journaliste me pousse à vous demander pourquoi.
Ça renvoie à l'enfance et on imagine que tous les enfants et que tout le monde a une super famille et que nous on l'a pas. Alors donc on est très triste et on revit comme en enfance, comme une forme d'injustice, ces images clichetonneuses. On sait que c'est des clichetonneuses où tout le monde est rassemblé et entouré d'amour et enveloppé d'amour. Et nous on a l'impression d'être en dehors de cette liesse-là.
Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a un truc très mystérieux, puisque vous parlez de cette nostalgie de l'enfance, et on l'éprouve même quand on a eu une enfance nulle.
Oui, c'est vrai, c'est exactement. Fou. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a une sorte de leurre sur l'enfance, quoi.
It may be winter in the rest of the world, but along the blue Italian shores of the Mediterranean, spring is in its full glory. And 1,000 feet above the sea is the Villa Cimbrone, the spot that all the world is watching. For here, Queen of Glamour Greta Garbo is spending a holiday with Leopold Stokowski, and that's news enough to set the world on tiptoe.
C'est les actualités britanniques pâtées de 1938. Oui. Greta Garbo dans oui. Votre lieu idéal, c'est la terrasse de l'infini oui. Dans la Villa Cimbrone qui surplombe oui. Le petit village de Ravello situé dans oui. Les montagnes sur la côte amalfitaine. Comment avez-vous découvert cet endroit?
Ah bah c'est une folie. J'ai acheté un guide qui s'appelle Les Villas de Charme en Italie et je me suis retrouvée à Amalfi. Et là, de Amalfi, j'ai monté avec un bus, le Tita, et je me suis retrouvée tout en haut des montagnes et j'ai appris que là, les Romains se réfugiaient l'été parce qu'il y avait meilleur air. C'est comme un livre, hein, ce paysage.
Vous
avez
la mer,
la montagne, une végétation luxuriante, magnifique. Et dans la villa de cet Anglais, un jardin initiatique avec un labyrinthe. Effectivement, Greta Garbo, au sommet de sa gloire, s'est réfugiée là-haut. Gide a écrit aussi
Truman Capote.
Truman Capote. Je savais pas, je m'étais retrouvée sur cette grande place. Et là, j'étais dans ce jardin. Et au bout de ce jardin, il y a une passerelle. Et là, je vous promets que vous êtes entre réalité et rêve. Et aussi, vous, dans votre devenir, vous êtes dans l'avenir. Vous regardez cette atmosphère bleutée, cet horizon infini. Et vous êtes, mais vraiment, c'est une émotion. Moi qui suis pas une fille des villes. On a une émotion de vraiment un vertige merveilleux. C'est un des lieux les plus beaux au monde.
Bon, alors restons en Italie avec les tableaux qui vous grisent. Ah. Ce sont les batailles du peintre du Quattrocento, Paolo Uccello, surnommé ainsi parce qu'il était étourdi. Uccello, ça signifie oiseau. Oui. Et c'est l'obsessionnel de la perspective. C'est un triptyque, la bataille de San Romano, qui bizarrement est dispersée dans trois endroits du monde différents.
Oui, il y en a un. Alors d'abord, le triptyque était dans la chambre de Laurent de Médicis. C'est un tableau qui est très beau parce que j'adore la tête du condottiere, qui est mélancolique, mais en même temps qui est déterminée. Et c'est vrai que ce triptyque a été admiré par tous les plus grands cubistes, parce qu'il y a les formes sont pures, et selon la loi optique, tout est fait à la feuille d'argent. Et c'est vrai que c'est un triptyque, il y en a un à Londres, dans la National Gallery, il y en a un au Louvre, donc dès que vous avez fini de déjeuner, courez voir ce Paolo Uccello au Louvre, et puis il y en a un, bien sûr, au Musée des Offices à Florence. Voilà, c'est un chef-d'œuvre, c'est comme un ballet d'automates et de chevaux. C'est une chorégraphie en apesanteur et silencieuse, mais d'une beauté éblouissante.
Et je le dis pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce triptyque, ce sont trois scènes d'une même bataille de l'histoire de Florence qui opposa les Florentins aux Siennois en 1432. Bataille dont les Florentins sortirent vainqueurs. C'est des couleurs chaudes. En même temps, c'est assez sombre.
Automnal, c'est un peu comme l'automne. Il y a du roux, du rouge, du l'or, de l'argent pour les cuirasses. Et puis, elle veut tout le paysage, l'arrière-pays vraiment florentin derrière. C'est assez fascinant, mais très moderne, voilà.
Alors d'après les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari, paru en 1550, Paolo Uccello finit ses jours en 1475, je cite, seul, excentrique, mélancolique et pauvre. Alors moi je propose de finir sur cette note galante. Marie-Rose Guarnieri, en un mot, comment vous vous sentez après cet égrenage de vos remèdes ?
Je me dis, j'aurais aimé en donner encore des remèdes. J'ai souvent cette sensation de ne pas avoir fait encore assez. Donc j'ai envie d'aller encore de l'avant et de vivre et de trouver d'autres remèdes pour mes contemporains, pour moi-même d'abord et pour mes contemporains.
Mais c'est ce que vous faites tous les jours dans votre librairie. En tout cas, merci beaucoup d'être venue dans cette émission,
encore,
Marie-Rose Guarnieri.
Encore, comme dirait Lacan, pour l'amour.
Merci. On peut vous voir et puis assister aux rencontres qui auront lieu dans votre librairie des Abbesses située au 30 rue Yvonne Le Tac dans le 18e à Paris. Le 28 novembre, il y aura Zina Modiano. Le 2 décembre, Pierre Etex. Et le 3 décembre, la danseuse et chorégraphe Maggie Marin. Je rappelle que le prix Vepler Fondation La Poste a été remis le 9 novembre dernier à Pierre Sange pour Achap ses calchés verticales et la mention spéciale du jury attribuée à Lise Charles pour Comme Ulysse chez POL. Et l'on patiente jusqu'en avril 2016 pour la prochaine édition de la fête de la librairie indépendante qui aura lieu dans toute la France, en Belgique et en Suisse francophone. Chers auditeurs, vous retrouverez toute la programmation musicale et les remèdes évoqués sur la page internet de l'émission. J'espère que vous avez pu faire une halte plaisante parmi nous ce matin. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie du comédien Félix Moati. Oui.